I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais avant tout ça, strike a pause. Moi, j'ai toujours rêvé de dire ça. Eh ben oui, je sais, c'est étrange sans l'image. Hein. Aujourd'hui, on parle de pause ou pause, tout dépend de la région de... dont vous venez. La nouvelle fournée, enfin l'une des livrées par Ryan Murphy, une série FX dispo sur Canal+, série, une incursion dans les ballrooms de la fin des années 80, and it's fabulous. Tout comme les débatteuses du jour, Anaïs Bordage, bonjour.
Bonjour.
Et Mélanie Wanga, bonjour.
Hello, hello.
Avant d'aller poser et danser, l'info du jour. Les retrouvailles entre Jim Carrey et Michel Gondry se feront sur petit écran.
It's the part of you that no one can see. But you know it's there. And I do too. That's the part of you that no one can take away. Because that's the part of you that's really you. You see, the stuff I like about you isn't the stuff on the outside. What I like about you is the other stuff. The inside stuff.
La série s'appelle Kidding, la bande-annonce annonce, c'est pour ça, c'est parce qu'il y avait une redite, c'était compliqué. La bande-annonce annonce une certaine poésie gondrienne, mais une certaine folie aussi, puisque Carrey incarne un ex-animateur de programme pour enfants qui traverse une grosse, très grosse crise familiale, avec également la merveilleuse Catherine Keener. Les 10 épisodes seront diffusés à la rentrée sur Showtime, avec vous ou pas.
Je sens l'enthousiasme
je sens
débordant.
Un enthousiasme très mou sur ce dossier.
Écoute, ouais, pour l'instant, j'attends de voir. En fait, je pense qu'on a atteint un peak TV, où, enfin, ça fait des années qu'on parle de peak TV, mais on a atteint un stade où j'attends généralement qu'il se passe un peu de temps et que d'autres gens me disent si ça vaut le coup ou pas de m'investir, tu vois, parce que il y a tellement de trucs à regarder, il y a tellement de trucs à suivre que je ne peux pas.
Tu veux dire que les séries sont chronophages ?
Bon, vraiment.
Oh, ben écoute, un petit peu.
C'est vrai qu'il n'y a rien de pire que de commencer une série et de te dire, allez, je me lance, on sait jamais, et de tomber sur une bouse, et là tu fais bon.
Ouais, voilà.
Bah, là, le Gondry test, carré, bon, il y a peu de probabilité de bouse quand même.
On espère. On réserve notre jugement.
Voilà. Moi j'y serai, par principe. Sans plus d'échauffement, on danse tous dans la ballroom.
There's so much you could say about the ballroom scene, but simply, it's just a way of life.
The ballroom is about us. We took dance from mainstream and posing in magazines and created Vogue.
It's a place you can live out a fantasy that you never lived before.
At the core of it, it's community.
It's about being alone and then finding people that are just like you.
I'm able to be true to myself in a space where that's celebrated. That makes me feel beautiful.
Give them some music!
Bienvenue dans le New York des années 80, l'ère de l'avènement luxe à la Trump, c'est-à-dire du bon goût assuré, hein, mais aussi de la ball culture. Bienvenue sur les dance floors, c'est parti pour le voguing. Pause suit cette communauté de fêtards et plus particulièrement trois femmes transgenres et un jeune homme gay. Êtes-vous emballés ?
Alors, Mélanie. Moi, je trouve qu'il y a énormément de choses positives, mais on retrouve les Ryan Murphy-ismes habituels dans cette série, et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de grincer des dents. Alors, j'adore le thème, je trouve que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est cool, pour une fois, les héros sont divers, des personnes transgenres, des personnes LGBT qui sont représentées, c'est pas des mecs qui incarnent des personnes transgenres pour une fois, donc ça c'est vraiment cool. L'histoire, j'adhère totalement, les années 80, la Trump Tower, ça me fait vraiment marrer parce qu'ils ont fait des liens avec le présent. voilà, sur ah là là, tu travailles pour Donald Trump, mais c'est génial. Alors c'est vrai que quand tu vois ça en 2018, tu fais ah oui, c'est vrai qu'à une époque
ça avait
l'air
cool à l'époque.
Voilà, tout le côté danse, musique est assez bien trouvé. C'est plein de tubes des années 80 qu'on a tous entendu à la radio avec nos parents dans la voiture, voilà, sur l'autoroute.
Ou peut-être certains étaient en âge de les écouter tout seuls parce qu'ils sont bien plus vieux que les autres.
On aussi. Dira rien. Après, le jeu des acteurs m'a un peu bloqué, je l'avoue. Certains acteurs en font un peu des caisses et certains n'en font pas assez, ce qui est assez gênant. L'héroïne, enfin une des actrices principales, Blanca, donc qui est jouée par MJ Rodriguez, je trouvais qu'elle avait l'air complètement paumée, un peu alors qu'elle est censée être un peu une badass, un peu aller au devant des choses, essayer de monter son équipe en fait de danseurs. J'avais un peu de mal à y croire à cette fille, quoi. Alors j'espère que ça va s'améliorer, mais sinon il y a quand même des points très positifs qui me donnent envie de continuer.
Anaïs. Moi vraiment j'ai juste envie de dire merci Ryan Murphy. quand j'ai vu Pose, j'avais très très peur effectivement des Ryan Murphyismes. On le connaît, il en fait toujours un peu trop, il sait pas du tout où amener sa narration. On se retrouve avec des histoires d'aliens et de nazis un peu de sortie de nulle part dans certaines de ses séries, notamment American Horror Story. Et là, en fait, je trouve que il a trouvé le sujet qui convient parfaitement à sa Ryan Murphyserie, parce que en fait, il explore la ball culture, et la ball culture, c'est une culture de l'extravagance et qui est pas toujours très chic, qui fait un peu ce qu'elle peut avec des bouts de ficelle, et qui est vraiment dans le sens de la démesure, dans le sens du drame, de l'emphase. Et donc, ça colle parfaitement avec ce que Ryan Murphy aime faire d'habitude, quoi, c'est-à-dire en faire des caisses. Bah là, à travers ces personnages complètement extravagants et donc avec des dialogues notamment entre Elektra et Blanca, qui sont donc deux rivales dans les bols et qui s'envoient des piques mais absolument incroyables. Les dialogues sont assez fabuleux, je trouve. Voilà, c'est vraiment parfois ça brûle, quoi.
C'est bien dosé, en fait. C'est ouais. Ça. Oh, il nous a pas toujours habitué à un dosage.
Ouais. Non, c'est ça. Je pense qu'à part O.J. Simpson, donc la première saison d'American Crime Story, voilà, qui était un peu sa série, où il a réussi incroyablement à se maîtriser jusqu'à la fin et à faire un truc vraiment bien cadré, quoi. D'habitude, il part dans tous les sens, et là, en fait, effectivement, il y a un sens à la fois de la démesure dans les dialogues et dans les, par exemple, le premier épisode se termine sur une scène de danse.
Sur ma chanson préférée de tous les temps.
Voilà, I Wanna Dance de Whitney Houston. Ouais. Et alors, peut-être que c'est parce qu'il était tellement content d'avoir réussi à avoir les droits qu'il s'est dit, bon, on va mettre la chanson en entier. Mais en fait, on s'attend un peu à ce que ce genre de scène coupe au bout d'une minute, quoi. C'est une scène d'audition. Donc, c'est un jeune homme qui s'est fait jeter de chez ses parents parce qu'il est gay, qui arrive à New York, qui est à la rue et qui, son rêve, c'est de danser. Et donc, il passe une audition dans une école de danse. Et donc, toute la tension du premier épisode
il
se joue dans cette
retard,
scène.
Voilà. Les inscriptions sont fermées, mais on lui donne quand même sa chance.
Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de suspense sur est-ce qu'il va être pris ou pas, évidemment, mais donc il y a cette scène où il commence à danser sur du Whitney Houston, et en fait ça dure, toute la chanson est diffusée, et donc en fait la tension monte de plus en plus, et Ryan Murphy tire en fait tout ce qu'il peut, quoi, de cette scène, et du coup ça marche, quoi, et ça illustre vachement bien ce qui, moi, me fait beaucoup de plaisir dans cette série, c'est que en fait il veut nous rendre heureux, c'est-à-dire que il prend des histoires qui sont assez douloureuses. Il parle d'une communauté qui a beaucoup souffert à une période où elle a énormément souffert. C'est les années SIDA. Il y a une épidémie de consommation de crack. Il y a de l'homophobie. Il y a du racisme. Il y a de la transphobie. Et il en parle. Mais en fait, il termine toujours sur une note positive et une note d'espoir, ce qui est ultra rare pour des histoires concernant ce genre de personnages, en fait, dont on nous parle tout le temps de la tragédie, quoi, la tragédie de leur vie. Et là, en fait, non. Il veut nous rendre heureux, il veut nous montrer que malgré toutes les difficultés, on peut y arriver, quoi.
Est-ce que Pose est un soap?
moi, je pense.
C'est ma question, pas dans la mare.
Alors, c'est vrai qu'ils jouent quand même, et c'est très conventionnel dans la manière dont.
Il y a quand même des codes de soap.
Voilà, exactement.
Champ contre champ, avec des gens qui s'envoient des pics, c'est quand même. C'est quand même
Mais je trouve que c'est les codes qu'il aime bien utiliser depuis longtemps et qui, là, vraiment fonctionnent parce que, en fait, il reprend des codes très conventionnels et qu'on a déjà, enfin, dont on n'en peut plus, quoi. Mais il les reprend avec des personnages qu'on ne voit jamais. Il nous donne des héroïnes trans jouées par des femmes trans, des héroïnes trans noires jouées par des femmes trans noires.
Parce qu'en fait, au scénario, deux scénaristes trans qui ont été embauchés, hein, Our Lady J et Janet Mock, qui ont insisté pour qu'aucune personne cisgenre ne joue un trans dans la série.
Exactement.
Ce qui, sauf erreur de ma part, est possiblement une première. Une série soit complètement centrée.
Dans
Transparent. Il y a Orange is the New Black aussi.
Oui, c'est vrai, qui était un peu la pionnière.
Mais c'est une série chorale. Là, on parle de personnages centraux qui sont vraiment au cœur de l'histoire.
Et dans Transparente, en fait, donc on a plusieurs personnages de femmes trans qui sont joués par des femmes trans, mais le personnage principal est joué par un homme cisgenre.
Un horrible gogo.
Voilà, qui en plus est accusé de harcèlement sexuel. Tout va bien.
On lui a consacré un épisode, si vous voulez écouter sur Transparente.
Mais c'est vrai que donc, c'est la première série à avoir autant de personnes trans qui jouent des rôles principaux. C'est la première série à avoir une femme trans noire qui fait partie des scénaristes, donc Janet Mock, qui aussi réalise un des épisodes qu'on n'a pas encore vu, qui est plutôt vers la fin de la saison. Et en fait, tout ça, ça se sent, quoi. C'est-à-dire que c'est produit et écrit par des personnes concernées par cette histoire. Et en fait, pour une fois, on retrouve même quasiment une inversion, parce qu'on a Evan Peters qui joue dans la série, mais qui joue un rôle
qui est un des fidèles de Ryan Murphy.
Voilà, qui un peu s'amuse, mais qui là, en fait, joue un rôle complètement minime dans l'histoire, qui joue un rôle assez intéressant, voilà, d'un mec qui veut bosser pour Trump et qui tombe amoureux donc d'une jeune fille trans prostituée, jouée par India Moore. Et en fait, on a le seul personnage blanc de la série qui occupe peut-être 10% de chaque épisode.
Mais d'ailleurs, pour moi, ça, c'est vraiment la partie soap, en fait, de la série. Cette histoire d'amour un peu sortie de nulle part où le gars, il arrête sa voiture. Et il y a aussi James Van Der Beek.
Oui, on ne sait jamais comment le dire, mais
Beck, on va se lancer Van Der Douche pour les
voilà,
intimes.
Qu'on retrouve à la Trump Tower et qui joue un gros rôle de douche, effectivement. Donc du coup, c'est marrant, moi je trouve qu'il y a une inversion, c'est-à-dire que les personnages blancs classiques, les mecs cisgenres qu'on voit partout, là ils ont des rôles un peu caricaturaux par rapport au
exactement.
Reste.
Donc, c'est assez, et assez je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas c'est génial, quoi. C'est-à-dire que du coup il explore des personnages qu'on voit jamais ou qu'on voit toujours mal représentés, et là il leur donne une nuance et beaucoup de dimensions qu'on voit rarement à l'écran. Et par contre, c'est vrai que les personnages blancs et cisgenres et hétéros sont un peu mis de côté, et franchement ça fait du bien, quoi. Moi en fait c'est vraiment une série qui me fait du bien.
Après, vu les gens qu'il a castés, il a quand même casté donc James Van Der Beek, Evan Peters et Kate Mara. Je pense que, enfin, sur le casting, leurs noms sont en premier, donc je pense que leurs rôles vont éventuellement prendre de l'importance.
Ou pas.
Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on les voit plus, justement, parce qu'ils sont,
Les
stars du projet, entre guillemets, les plus connus. Et pourtant, pour l'instant, en tout cas, c'est vraiment surprenant de les voir aussi peu et de les voir jouer un rôle très marginal dans l'histoire de ces autres personnages, quoi. Et des personnages, d'ailleurs, qui sont pas définis uniquement par leur transidentité, ou par exemple, on a
c'est important, et c'est pas non plus, c'est pas tout ce qui les constitue, en fait. C'est des vrais personnages,
c'est vraiment la musique et la danse et le ball, quoi, qui les constitue.
Ouais, voilà, c'est ça. Et alors après, évidemment, ça reprend beaucoup, surtout les 15-20 premières minutes avec la scène de ball. Si vous avez vu Paris is Burning, ça reprend toutes les expressions qu'on a déjà entendues plein de fois, tens across the board, les trucs comme ça. Mais en même temps, je trouve que ça fonctionne un peu. Ça peut fonctionner pour des gens qui appartiennent à la communauté LGBT, et ça peut aussi fonctionner pour des gens complètement déconnectés de ça, parce que ça les introduit vraiment à quelque chose qu'ils connaissaient peut-être pas, quoi. Donc je trouve que ça fonctionne sur les deux niveaux, et c'est vraiment bien fait, parce que encore une fois, les gens qui sont derrière la caméra savent de quoi ils parlent, quoi.
Anaïs, tu dis que c'est une série qui te rend heureuse. C'est le cas aussi pour toi, Mélanie?
Moi, je
suis assez d'accord. Je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez.
Quand
les sujets sont lourds, quelque chose d'assez.
Assez positif. Mais moi, il y a des scènes, notamment, on parlait au début, les scènes assez fortes, quand Damon, donc le héros, se fait jeter de chez lui, en fait, par son père parce qu'il est homosexuel et parce qu'il aime danser. Ça m'a vachement choqué, cette scène. J'ai trouvé ça très violent, très fort. Et j'ai trouvé que c'était peut-être la scène. Alors, je sais que on vient pas dans une série comme ça pour le réalisme, mais ça a rajouté vraiment une dose de réalisme, une dose d'enjeu, en fait, et on comprend du coup le désespoir qu'il ressent après et pourquoi il dort dans un parc et pourquoi la seule chance qu'il a c'est de se mettre à danser quoi. J'ai trouvé ça assez fort.
Oui, parce que c'est bon, j'ai dit c'est une série qui reprend quelques codes du soap, mais c'est aussi une série sur l'émancipation.
Ouais. Ah oui, complètement. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en vrai, dans les balls de New York de cette époque-là, les costumes étaient généralement un peu moins raffinés que dans la série. Les gens étaient peut-être pas tous aussi beaux, aussi caméra ready, on va dire. Mais j'ai l'impression qu'ils montrent aussi. Enfin, en fait, tout le principe des balls, c'est de réaliser un fantasme. C'est de se dire, en fait, je peux appartenir à une société qui pourtant me rejette complètement. Je peux. Enfin, realness, c'est voilà. Voilà, c'est les catégories où ils essayent de se faire passer pour quelqu'un qui travaille dans une banque ou pour quelqu'un d'hétéro alors qu'ils ne sont pas ou qu'ils ou elles ne le sont pas. Et du coup, j'ai l'impression que Ryan Murphy réalise ce fantasme-là, c'est-à-dire qu'on les voit avec des costumes complètement extravagants, on les voit justement vivre une vie qui, malgré toutes les embûches qu'ils rencontrent, est relativement joyeuse et pleine d'espoir. On les voit se faire des câlins, on les voit s'entraider, on les voit se donner des conseils. Il y a une scène très émouvante où Blanca justement parle un peu de sexualité à Damon parce qu'il est, il a jamais vraiment su en parler à son père et donc là elle lui explique un peu comment ça marche quoi. Et donc tout ça c'est vraiment plein d'espoir et ça permet en fait de voilà de s'éloigner de tous les clichés de l'horreur tragique que ces personnages subissent d'habitude et pour plutôt en fait nous donner une image vraiment positive et qui rentre dans cette idée de fantasme quoi, c'est-à-dire que on rentre dans le bol et on les voit vivre une vie que peut-être beaucoup de gens n'ont pas pu vivre à cette époque-là, mais que voilà dans la série on transcende un peu ça quoi.
Qu'est-ce que la série raconte ou en tout cas explique des États-Unis d'aujourd'hui selon vous? Effectivement, il y a des parallèles quand même.
Ouais, voilà, c'est des parallèles assez forts.
Trump, on en parle. Il y aura deux, trois choucroutes, deux, trois épaulettes, mais en dehors de ça.
Moi, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu disais, Anaïs, ça parle de la crise de la drogue, en fait, à l'époque, et qui touchait particulièrement la communauté noire, et que Ronald Reagan, à l'époque, a traité un peu en mode bon, bah, dommage, il y a une crise qui décime la population noire, oups. Alors qu'aujourd'hui, en 2018, il y a une crise aussi de la drogue, des opioïdes en fait aux États-Unis qui touchent les communautés blanches et là par contre l'État en fait met beaucoup d'argent pour essayer d'enrayer tout ça. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé enfin, en fait, c'est tragique, mais je trouve que ça rajoute aussi du réalisme, l'aspect autour du sida, en fait, du VIH, sachant que Blanca est atteinte du VIH et décide malgré tout de continuer de vivre en fait et de se lancer en fait dans la construction de sa house.
Et que c'est minimal en fait dans la construction de son personnage.
Voilà,
d'habitude, on a le personnage c'est repos, bon bah c'est bon quoi, on l'a caractérisé.
Il est triste, il reste chez lui, bouge plus, il dort plus.
Exactement.
Mange plus.
Et en fait, là, Blanca, c'est vraiment on a la scène un peu voilà qu'on a déjà vu plein de fois, la scène du rendez-vous où on lui dit qu'elle est atteinte du VIH et en fait au-delà de cette scène un peu cliché, on l'oublie pas, c'est tout le temps là, mais en fait elle est définie par plein d'autres choses et encore une fois elle a de multiples dimensions et ça fait vraiment plaisir à voir.
Des personnages très très riches en fait.
Ouais, exactement, et auxquels on s'attache quand même super rapidement parce que enfin moi j'étais émue aux larmes dès le premier épisode, je trouve que c'est vraiment
Mais ça c'est l'effet Whitney, c'est pour ça.
Exactement, c'est vrai que tu me mets Whitney, je pleure très facilement.
Whitney syndrome, le syndrome Whitney, ouais, c'est ça. Ouais. Donner ce nom là dans chaque série, le point Whitney est atteint, les larmes coulent.
Exactement.
Et rappelons-le parce que c'est pas on a consacré un épisode de Next Episode à Ryan Murphy dans lequel on n'a pas forcément été toujours très sympathique sur ses qualités esthétiques. Disons-le, Pose, c'est aussi une série esthétiquement très réussie. Voilà. Il n'y a pas ce petit basculement symptomatique du « Ah, c'est beau, ah là là, c'est de mauvais goût, c'est
oui,
moche ».
Ah, c'est ça que vous aviez dit, parce que je disais relativement, ces séries, elles sont assez marquées visuellement à Ryan Murphy. Ouais, mais des fois, effectivement, ça
Ah bah, des fois, on bascule du côté « Ah,
Mais là, en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que c'est vraiment, comme tu disais, on retrouve en fait ce qu'il fait d'habitude, sauf que là, ça fonctionne, parce que dans les scènes de bol, avec la caméra qui est tout le temps en mouvement, qui bouge dans tous les sens, etc.
Il y a des gros plans sur les visages aussi.
Voilà, et parfois, c'est le genre de truc qui donne un peu la nausée dans ses autres séries, mais qui là fonctionne complètement avec ce qu'il veut nous montrer quoi. Il veut nous montrer vraiment l'effervescence de cette scène là et donc du coup tous ces mouvements de caméra un peu un peu trop quoi, là ça fonctionne parfaitement
là, ça
avec
s'y prête,
voilà exactement.
Donc je rappelle, Pause de Ryan Murphy, c'est en ce moment sur Canal Série. Tradition oblige, si je vous demande une recommandation.
Eh ben, moi, pour rester dans la danse, on va dire, et le chant, j'ai envie de parler de Crazy Ex-Girlfriend. Je sais qu'on en parle tout le temps et je sais que tout le monde adore.
Mais il y a des séries qui reviennent comme ça. C'est voilà.
Mais voilà quoi. Si vous aimez les chansons, si vous... alors c'est pas du tout l'esprit ball ni l'esprit vogue, mais mais il y a quand même de la musique, il y a quand même du sentiment, il y a quand même de l'extravagance, on va dire. Sauf que ça se passe dans la tête de l'héroïne, donc voilà.
C'est aussi très beau, esthétiquement.
Moi, j'aime beaucoup.
Ça va me permettre.
Anaïs,
Je ne peux pas ne pas recommander RuPaul's Drag Race.
Mais bien sûr, évidemment, voilà. Auquel un hommage est rendu assez rapidement. Oui. Je ne sais plus dans quel épisode. Enfin, le point RuPaul arrive très rapidement.
Ouais.
En tout cas, il y a certains personnages, on dirait qu'ils sont inspirés de lui un petit peu.
Ouais, voilà, c'est ça. Bah, en fait, c'est un passage obligatoire, quoi. C'est en fait donc RuPaul's Drag Race, qui est une émission de télé-réalité où en fait des drag queens sont en compétition et donc animée par RuPaul, célèbre drag queen, qui a vraiment influencé la culture de gay de New York dans ces années-là. C'est encore une fois une émission qui me rend tellement heureuse. C'est l'intersection, donc c'est du drag, donc c'est l'intersection de beaucoup d'arts différents, c'est-à-dire qu'il y a les costumes, le maquillage, la coiffure, il y a juste la performance, il y a la danse, il y a de la comédie, il y a du stand-up, il y a vraiment, si vous aimez les arts dans toutes leurs formes, bah là c'est parfait. Et puis en fait on a une communauté qu'on voit rarement comme ça à la télé, on a des personnes qu'on voit rarement représentées à la télé, donc on a des femmes trans, on a des hommes gays, on a des personnes en surpoids, on a des personnes portoricaines ou amérindiennes, enfin des gens qu'on voit pas souvent en fait représentés à la télé et qui parlent d'histoires parfois très dures qu'ils ont vécues, parce que c'est encore une fois une communauté très marginalisée, et sauf que là, bah, ils expriment tout ça à travers le drag, et donc un art qui est particulièrement joyeux, qui mise tout sur l'extravagance, sur la confiance en soi. Et donc en fait, qu'on appartienne à la communauté LGBT ou pas, ça procure un tel bonheur de voir des gens comme ça se surpasser et mettre toutes leurs insécurités de côté pour faire quelque chose d'absolument époustouflant, épisode après épisode. C'est vraiment génial, on rit, on pleure, on s'extasie devant la beauté des performances et des costumes. Bref, il y a tout ce qu'il faut dedans, donc vraiment RuPaul's Drag Race, je recommande.
Voilà, vous noterez que cette émission était placée sous le signe de l'optimisme et de la beauté.
Oui.
Merci beaucoup Anaïs Bordage, merci Mélanie Wanga. Next épisode, c'est terminé, rendez-vous mardi prochain, même heure.
L'idée est là, mais la cohérence n'est pas là du tout, quoi.
Fin de séance, le lundi à 19h.
Bah, il a des très très bonnes intentions, puis tout s'écroule sous une dramaturgie vraiment hyper poussive.
Retrouvez Thomas Camacho et Pierre Delors.
C'était quand même le grand écart entre Source Code et Warcraft. On s'était d'ailleurs posé la question, pourquoi Warcraft ?
Et sur toutes les applications podcast.